à Québec 800. La récréaction.
Allô? 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 Avouez qu'il y a plusieurs façons de dire allô, puis juste dans la façon de livrer le allô en question, je parle du contenant, on peut percevoir l'humeur de la personne qui nous dit allô. Alors, si je dis allô, ça fait oh, il va pas bien, ça fait allô! Ça fait comme oh, il est un peu trop de bonne humeur, il est trop high, puis si tu t'es pas dans une étape cérébrale où tu peux recevoir une surdose de bonne humeur, tu vas avoir le réflexe de repousser le collègue en question. Mais s'il fait un allô, ben là, tu vas avoir l'empathie puis tu vas dire, ça va-tu? Tu comprends? C'est vrai, Alexandra, hein?
C'est vrai.
Ça va bien, toi?
Oui, ça va bien.
Oui, on a le réflexe de dire toujours oui, ça va bien, hein, quand on demande est-ce que ça va bien. Mais hier, moi, j'allais pas super bien parce que je me suis blessé à la cheville en jouant au hockey. Puis je le disais. Moi, je le dis quand ça va moyen. Mm. Moyen, c'est 5 sur 10, disons. Mais quand je vais pas bien, je dis non, ça va pas.
OK.
Puis là, la plupart des gens tombent en mode empathie. Puis ça devient lourd quand ça fait 10 fois que tu expliques pourquoi ça va moyen, là.
Effectivement.
Un point tel que la 11e personne...
Tu dis ça va bien.
Ouais, ça va super bien! C'est un peu agressif, là, pour être certain. Voyons, t'as pas l'air à aller tant que ça. Oui, 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 ça va bien, ma cheville aussi. Comment ta cheville? On n'a même pas parlé de ta cheville. Non, mais c'est vrai, hein?
Ouais.
Parce qu'en plus, quand tu vas pas bien, souvent, t'as pas le goût tant que ça de dire pourquoi.
C'est ça.
Là, c'était facile parce que c'était une blessure à la cheville. Et d'ailleurs, maudit qu'il y a des studios connaissants qui finissent par te conseiller sur 56 patentes quand tu te blesses à quelque part. Hein?
C'est la même chose pour la nutrition.
Sûrement.
Ah oui.
Hey, on s'est pas dit santé.
C'est vrai.
Santé.
Santé.
Aujourd'hui, Nicole, une amie, m'a demandé de te demander. Parce que les intros maintenant sont liées à l'anarchie. Je prends des questions par courriel ou sur Facebook. Si vous en avez d'ailleurs pour Alexandra, écrivez-moi. Nicole a une très bonne question. Est-ce que tu fais le métier que tu as toujours rêvé de faire? Et si tu n'étais pas nutritionniste et biochimiste, tu ferais quoi? Idéalement, là, OK? Puis je dis idéalement, mais je suis certain que... Tu sais, moi, j'ai lu le secret, là. Je pense qu'on peut faire quelque chose qu'on aime. Tout le monde pourrait arriver à un point tel de dire, je fais vraiment un métier que j'aime faire. C'est mon plan A depuis que je suis jeune. Puis en même temps, je pense aussi qu'on peut changer d'idée à 30, 40, 50 ans, de dire, j'aime plus faire ça, je veux faire autre chose. Ouais. Nicole veut savoir si t'aimes ton métier, c'est bizarre, hein?
Non, mais c'est une super bonne question. J'adore mon métier de nutritionniste. En fait, je me suis vraiment trouvée là-dedans. Mais je te dirais, quand ça, on repart justement de quand j'étais plus jeune, j'ai toujours voulu être professeur. Après ça, j'ai découvert les sciences. Puis là, j'ai voulu être biochimiste. Et que j'ai fait un bac en biochimie, comme tu le sais bien. Puis, ça me rejoignait moins. Je trouvais qu'il manquait là, quelque chose. Puis, par la suite, je suis allée vers la nutrition. Puis, je me suis rendu compte cette année que la nutrition, ben c'était pas loin de mon rêve de devenir professeur.
Ouais,
ben, qu'est-ce que je fais? J'enseigne aux gens.
Mais oui.
Mais c'est du individuel. Hein.
C'est de l'enseignement privé.
Exactement. Donc, j'adore mon métier de nutritionniste. Puis surtout, moi, étant mon compte, en ayant mon entreprise, ça me permet de faire une multitude de tâches que je ferais pas si j'étais, par exemple, si je travaillais à l'hôpital. Ou
comme de la radio.
Comme de la radio, comme des chroniques papier, mm-hmm. Mon site Internet.
Auteur.
Auteur, mon livre de recettes.
Il sort quand, d'ailleurs?
Ou 2012. Puis ça me permet vraiment de me trouver dans plusieurs sphères de ma vie. À la question, si j'avais à faire autre chose...
Ou admettons que demain matin, tu te réveilles, ce qui est impossible, mais le métier de nutritionniste n'existe plus.
Ouais.
C'est le calendrier Maya qui nous l'a dit. Fini. Biochimiste, nutritionniste, ouais. C'est disparu de la map professionnelle.
C'est drôle, je me suis posé la question dernièrement. Je pense que j'aimerais être photographe. C'est complètement autre chose.
Photographe artistique ou photographe de magasin Sears?
Photographe artistique. Ben là, tu sais, exactement qu'est-ce que je ferais, je sais pas. J'adore la photo comme passe-temps. Moi, j'ai un côté très artistique développé, donc j'aime beaucoup les couleurs, la lumière, ainsi de suite. Donc, je pense que ça serait photographe. Puis je me suis toujours dit aussi que si, moi je viens de la Gaspésie, j'ai toujours aimé danser, mais on n'avait pas de cours de danse. Hein. Moi je me suis toujours dit que si j'avais
en Gaspésie, il n'y avait pas de cours de
danse. Non, c'est...
T'as quel âge toi?
J'ai 27.
Okay.
Mais c'est drôle, mais c'est plate de même. Mais je me suis toujours dit que si j'avais eu accès à des cours de danse, j'aurais peut-être été danseuse. Hein.
Ah,
ouais.
Je parlerai de danseuse probablement aujourd'hui.
C'est drôle, hein, mais...
Ou un autre nutritionniste. Là.
Ou une photographe.
Ouais, ou une photographe.
Ouais, mais tu vois, la photographie, de plus en plus, j'en fais pour... Je prends des photos de bouffe pour mon site, j'en fais dans mes passe-temps, donc
ouais.
J'en fais quand même, là, ce qui est très agréable.
Ouais, puis dans la présentation de tes plats, j'imagine que tu as une démarche artistique aussi.
J'essaie, c'est pas toujours, parce qu'il y a des personnes qui font juste ça, dans le fond, qui sont stylistes de nourriture.
Ah oui?
Oui, ça existe. Hein.
Ah oui?
Par exemple...
Ben, dans les restaurants, j'imagine.
Ceux-là qui travaillent avec les photographes, par exemple, pour un livre de recettes,
oui.
C'est le meilleur exemple.
Ben oui.
Les photographes qui prennent les photos des recettes, mais souvent, ils ont des stylistes culinaires qui viennent. Ou par exemple, dans une émission de cuisine à la télévision.
Il n'y en a pas beaucoup, là. Nomme-moi deux exemples. Il n'y a pas beaucoup d'émissions de télé sur la cuisine.
Pas pantoute.
Il y a même un poste qui est dédié à ça au Québec.
Oui, ben,
il
existe.
Oui, ben c'est ça.
Puis moi, je suis grande abonnée de Food Network.
Oui, Food Channel.
Ouais. Fait que ça, il y en a. Mais c'est ça, il y a des personnes qui font ça de leur vie. C'est extraordinaire quand même.
Est-ce que t'as mis le métier de photographe sur une tablette puis tu vas sortir ce document-là à ta retraite? Ou tu vas le faire en parallèle quand
non.
Tu vas avoir des enfants parce que tu vas prendre en photo tes enfants? Je t'avertis, t'en veux-tu des enfants?
Oui, je veux des enfants.
Je suis tombé dans les questions indiscrètes. Quand?
Ah, ben ça, c'est une bonne question.
Ça se prépare comme une recette, ça, la
ben,
famille?
Oui, ben je pense que ça va venir quand, comme j'ai dit, étant avec mon entreprise, disons que pour l'instant, le temps manque. D'ici les prochaines années, c'est dans les plans. J'étais encore jeune, d'ici 30 ans, je dirais.
Tu peux me répondre, c'est pas de mes affaires.
Bon, c'est correct, moi ça me dérange
si,
pas.
Mais si t'attends que tu me dis, c'est parce que là, en ce moment, j'ai pas le temps, tu vas l'avoir encore moins dans 10 ans, je t'avertis, dans 5 ans. De faire des enfants... Caroline, est-ce que je donne mon avis là-dessus? Moi, en tout cas, je vais te dire quelque chose que je dis souvent à mes amis. Moi, je te connais assez pour te dire que tu es une bonne personne. Et si les bonnes personnes qui me sortent l'argument, qui ont, moi, la défaite, j'ai pas le temps en ce moment, là, autant pour faire des enfants que de l'activité physique. Désolé, tu me vois venir rouge, là, j'enrage, là. J'ai de la misère avec ça. T'es une bonne personne, Alexandra, je te connais assez pour te le dire. Fais des enfants. Il y a trop de mauvaises personnes qui en font des enfants en comparaison aux bonnes personnes. C'est tellement lourd à porter en société parce que t'as une responsabilité comme individu d'être heureuse, de toucher au bonheur en lien avec des objectifs précis, l'équilibre et le plaisir, mais t'as une responsabilité en société. J'aimerais ça que les bonnes personnes, que mes amis fassent des enfants pour qu'on crée une relève, une génération avec des parents équilibrés et intéressants à côtoyer. Tu comprends mon point?
Mais je te dirais, t'as raison. Le temps, c'est pas une... Sauf que, de mon point de vue, avec mon entreprise, par exemple, on s'entend qu'une femme qui part en congé de maternité avec son entreprise...
Ça se fait, Alex.
Ça se fait.
Ben oui, ça se fait.
Mais je pense que d'ici quelques années, je vais être plus à l'aise avec ça.
Oui. Je te le souhaite et je nous le souhaite comme société.
Ben, merci.
D'ailleurs, c'est ce que je voulais prouver avec cette petite discussion. Un choix de carrière, c'est aussi la santé.
Oui. T'as tout à fait raison.
On parle de repas en famille pour la santé après ceci.
Vous écoutez La Récré Action. Action! Invité du jour.
Récré Action, c'est le titre de l'émission que vous écoutez présentement. Je m'appelle Hugo et je vous dis santé, comme je l'ai dit en début d'épisode tout à l'heure avant la pause. Je vous dis aussi que vous pouvez passer par québec800.com, c'est la station de radio officielle qui diffuse la récréaction. Sur québec800.com, vous cliquez sur l'onglet programmation. Vous allez voir ensuite la récréaction diffusée à 10h30 tous les jours. Et il y a un lien vers ma page Facebook. Devenez donc fan. Hein? Bientôt, on va faire tirer des quoi? Des surprises. Ça se dit bien ça, le mot surprise. Les enfants aiment ça en plus. On va donner des surprises aux fans de la récréaction. Ça s'en vient, je vous dis. Je travaille là-dessus, là, trouver un commanditaire qui me donne des petits cadeaux ici et là. Parce que je veux qu'on crée une mini-famille sur ma page Facebook de la récréation. Et parlant de famille, on parle de repas en famille pour la santé. Et là, on parle pas précisément d'impliquer les enfants dans la préparation de recettes, Alexandra.
Non, on parle de prendre les repas en famille. Puis, on parle des familles, donc bon, ça inclut les enfants, mais ça pourrait être des personnes qui n'ont pas d'enfants non plus, là. On parle de couple, de coloc même, à la limite, pourquoi pas. Mais on parle, entre autres, là, de familles qui ont des enfants.
Entre humains, dans le fond.
Entre humains, ben ouais, c'est super bien dit. Pourquoi c'est important, les repas en famille? C'est ça qu'on va regarder, parce que pour le développement des enfants, il y a une importance qui est là. Donc, je voudrais d'abord commencer... Au Québec, il y a un projet qui a été fait en 2011, ça s'appelle « Tout le monde à table ». Ça a été fait par Extenso de l'Université de Montréal. Ils ont fait une grande tournée québécoise. Ils ont interrogé, j'ai pas le nombre exact, mais beaucoup de familles québécoises avec qui ont des enfants de 12 ans et moins. Ils ont ressorti des statistiques sur les habitudes alimentaires et des repas de ces familles-là. Puis, il y a plusieurs trucs intéressants qui sont ressortis. Entre autres, je vais vous en nommer un pour commencer. Lors d'un soir typique de semaine, seulement une famille québécoise sur deux, donc 51%, dit manger en famille, sans télévision et avec tous les membres de la famille. Et 14% sont à table avec une partie de la famille. C'est pas beaucoup.
Non. Mais disons, là, je vois le mot télévision, mais on peut ajouter Internet ou un ordinateur.
Exact.
Moi, donc, je le vois au bureau, là. C'est un peu triste. D'ailleurs, on n'a pas de salle à manger officiellement à la station. Mm. Il y en a une au Colisée avec les bureaux des Remparts, mais on n'a pas le réflexe d'y aller. Donc, ceux qui ne sortent pas mangent souvent devant leur écran d'ordinateur en travaillant.
C'est pas une super bonne habitude. Pourquoi?
À la maison, c'est encore pire. Hein,
quand... Oui.
Moi, je suis pas bon là-dedans en passant, là, mais à coup le pas, là, je fais dur. J'ai vraiment de mauvaises notes par rapport à ton sujet d'aujourd'hui. Souvent, je mange devant la télé.
OK. Mais c'est pourquoi il faut pas manger devant la télé? C'est une bonne question.
C'est ma question, d'ailleurs.
C'est une très bonne question. Parce que dans le fond, devant la télévision, quand on est tout le monde devant la télé ou nous-mêmes devant la TV. Premièrement, on n'est pas concentré sur nos signaux de satiété. Donc, je ressors mon sujet de 2011 préféré, la satiété.
Ouais.
Donc, on n'est pas axé sur ce que notre corps nous dit, parce qu'on est axé sur la télévision. Puis, on n'est pas axé aussi sur les autres membres de la famille. Donc, on n'interagit pas avec les autres personnes. Mm-hmm. On est seulement devant la télévision. Donc, c'est vraiment important pour le développement des enfants et des relations humaines générales. Tu sais, si on le fait pas au repas, on le fait quand? S'asseoir puis se parler de sa journée.
Jamais.
Jamais. Puis en regardant la télévision, ben notre intérêt est ailleurs. On n'écoute pas attentivement ce que l'autre nous dit. Puis là, après ça, on vient dire, on a des problèmes de communication. Et ben ça part peut-être de là, entre autres. Hein?
Ouais.
Donc de là, de l'importance d'être à table premièrement et de pas avoir de télévision. Je sais que moi, personnellement, dans ma famille, on n'a jamais eu de télévision à table. Ça a toujours été les repas ensemble. Puis, on avait souvent de super belles discussions sur nos journées, sur des sujets. C'est très enrichissant pour les familles. Ça rapproche les familles. Puis maintenant, à l'âge adulte, je le fais maintenant aussi.
Bon, mais t'oublies entre les deux. Là, t'as parlé de ton enfance puis de l'âge adulte, mais le problème, c'est entre les deux.
Ouais.
Là où on prend ce mauvais pli-là, c'est au cégep.
Ouais,
au cégep, on a-tu dîné puis souper devant télé ou... tu sais, heureusement, les téléphones intelligents n'existaient pas à ce moment-là. J'imagine que les cégeps d'aujourd'hui sont remplis d'étudiants qui mangent avec leur téléphone. C'est triste, ça. Ben non, je sais pas. Je sais pas quoi penser de ça.
Moi. Ben, moi, je dirais...
C'est pas l'avenir, un peu, ça?
Ben, je dirais que si au moins il y a un repas par jour qui est pris... Parce que souvent, manger sur le coin d'un comptoir aussi, c'est pas très... Disons que le repas, c'est un moment qui peut nous permettre de déstresser, d'être tranquille, de sortir, d'évacuer un peu la pression de la journée. Ouais. Si on n'a jamais de moment comme ça dans la journée, c'est difficile, je pense. Fait que c'est pas nécessairement d'avoir tous les repas, tout le monde assis ensemble, mais au moins un repas par jour.
Je suis allé au restaurant avec ma conjointe, puis tout près de nous, la table à côté... L'homme avait son BlackBerry, puis il était là-dessus sérieusement le tiers du repas avec sa conjointe. Puis là, je vous parle pas de l'ado de 13 ans qui était avec eux. Donc, souper en famille au restaurant, OK? Je vous rappelle le contexte. L'ado de 13 ans est avec des écouteurs vert fluo, très, très laid. C'est une parenthèse d'opinion personnelle. Branché à un... comment ça s'appelle? Les Nintendo DS.
Okay,
branché à un Nintendo DS. Papa, avec son BlackBerry, réglait quelques trucs plus ou moins importants. Je suis pas là pour juger, mais j'ai constaté qu'effectivement, il y avait pour moi, là, un problème avec cette famille-là. Il y a pas une, c'était pas une belle réunion humaine.
Non, ben c'est ça. Puis, dans le fond, justement, dans le rapport « Tout le monde à table », ce qu'ils disent à propos des repas, ils disent que c'est l'occasion de discuter des événements de la journée, des bonnes nouvelles et de sujets divers. C'est aussi l'occasion pour l'enfant, entre autres, de faire l'apprentissage de la vie sociale, des modèles d'interaction et des règles de savoir-vivre. Donc, ça, c'est important, les repas. On s'en rend pas compte, oui. Mais c'est important. Puis moi, dans le fond, ce que j'ai aussi, c'est que les enfants apprennent par imitation. Donc, c'est en observant les adultes qui parlent ensemble, qui interagissent avec les autres membres de la famille, qui vont apprendre à être des bons adultes aussi.
C'est un cours de communication.
Exactement, comme. Tout à fait. Plusieurs autres avantages à manger en famille, des études qui ont démontré beaucoup de bienfaits pour les enfants. Des meilleurs résultats scolaires, un meilleur développement du langage et une diminution du décrochage, rien de moins. Un risque plus faible d'abus de drogue et d'alcool.
Ben là.
Oui.
OK.
Ben à cause de la bulle familiale, là, quand les enfants sont bien encadrés, qui ont une famille tissée serrée, souvent il va y avoir, je dis pas qu'il n'y en a pas, mais le risque est plus faible.
Ouais.
Ça permet de promouvoir de meilleures habitudes alimentaires, bien sûr. Quand les parents sont à table avec les enfants, on parle de ce qu'on a dans l'assiette, des aliments, de ce qu'on mange, ben les enfants apprennent aussi de cette façon-là.
On est rendu loin là des conséquences de ne pas manger en famille. Là. Ben, on peut parler aussi du fait que c'est déjà une bonne nouvelle que les parents soient encore ensemble dans la même maison.
Oui.
Il y a tellement de couples qui se séparent. On est à l'ère du recyclage. Là. C'est déjà beau que papa et maman soient dans la même maison. C'est l'ado de 13 ans qui s'isole puis qui tombe dans... Pour X raisons, moi, je pense que c'est un amalgame de facteurs. Il y en a énormément de facteurs qui font en sorte que quelqu'un pense au suicide, je pense.
Mm-hmm.
C'est pas une chose, mais effectivement, de manger en famille, ben déjà, de garder le mot famille dans son environnement actuel, mm-hmm. c'est un miracle. Là. Les gens abandonnent vite la vie de couple, je trouve, avec des enfants en bas âge.
Même si c'était juste, admettons, des parents séparés, si c'est la mère seule ou le père seul qui soupe avec les enfants, moi, j'appelle ça quand même un repas en famille, là. Un adulte avec d'autres enfants au moins.
Oui.
Mais tu sais, c'est vrai Hugo, tu sais, je veux dire c'est pas de manger à table ensemble qui va régler tous les problèmes de la société. Par contre, si on peut diminuer certains risques, c'est ça le mot, diminution de certains risques de problèmes, je pense que ça peut être des beaux avantages à voir ça.
Ouais, on peut éviter grands-parents pas ça. Ça
ben
peut
oui.
ça peut être une résolution ça.
Effectivement.
Tu sais les fameux soupers du dimanche là.
Mm-hmm. Bonne idée. Autre chose aussi qui a été démontrée par les études, dans le fond, c'est pas moi qui l'invente, là, c'est vraiment des études qui ont été démontrées. Ça peut protéger les adolescents de troubles alimentaires et des risques de dépression. Parce que encore là, il y a de la communication, puis ça diminue les risques, les problématiques de poids aussi. Donc, ça a quand même beaucoup d'avantages là, de manger en famille. Puis, les études ont aussi démontré que les familles qui mangent souvent ensemble auraient une meilleure alimentation. Là, le phénomène s'explique plus ou moins bien, mais ce qui paraîtrait, c'est que les enfants consomment plus de fruits et légumes et plus de produits laitiers.
Ouais, puis ils mangent à heure fixe, évidemment.
Exact, c'est ça.
Tu sais, on parlait de routine la semaine dernière. C'est un peu le problème et la solution en même temps, la routine dans une famille.
Là. C'est ça.
Ouais, je suis d'accord. Puis j'ai encore l'image, je ne sais plus de quel film, mais le jour après jour, papa ou maman va porter l'assiette, le repas, tout près de la porte de l'ado. Puis ils ont un code, t'as rendu compte? Genre, quand je cogne 4 fois, ça veut dire que ton repas est près de ta porte. Fait que l'ado ouvre la porte, prend son repas, referme la porte.
C'est épouvantable.
Puis le parent, lui, sa raison de... Mais lui, il se dit que s'il veut garder une belle relation avec son ado, c'est la solution, puis qu'il est mieux avec ses écouteurs et son ordinateur dans sa chambre.
Ouais, mais c'est pas toujours la meilleure façon, disons. Fait que, ceci dit, bon, il y a beaucoup d'avantages, mais je vais reprendre comment qu'on fait... pour manger plus souvent en famille. C'est pas évident.
Là, je vais te la poser, la question. Moi.
Oui.
Comment on fait? Comment on fait, nous? Moi, j'ai 3 enfants. J'arrive chez moi à 6h, 6h15 la plupart du temps. Puis comme je t'ai donné l'exemple avant d'entrer en onde, les mercredis, j'arrive plus tôt parce que mon gars de 5 ans joue au hockey. Mais souvent, quand j'arrive à 5h15, 5h20, il faut se dépêcher. Puis j'ai même pas le temps de manger. Je pars avec Elliot au hockey, puis je mange en revenant. C'est compliqué, moi, en tout cas.
Oui, mais puis c'est compliqué pour beaucoup de familles aussi. Beaucoup d'activités parascolaires. Les horaires sont différents. Donc, c'est sûr
beaucoup
que
beaucoup de maisons.
Beaucoup, oui, c'est ça.
Souvent, les enfants, maintenant, ont 2 maisons, chez papa ou chez maman.
C'est peut-être pas évident d'avoir tous les repas en famille. Sauf que moi, ce que je vous donnerais peut-être comme objectif, c'est d'essayer peut-être d'en avoir un plus par semaine. Donc, s'il n'y en a pas du tout, ben commencez par un. S'il y en a 2, tu sais, essayez d'y aller comme ça. Puis je vous donne justement des trucs là, par rapport au repas en famille. Je veux d'abord reparler d'une statistique. L'étude de Tout le monde à table démontre que près de la moitié des parents ne savent pas à 17h ce qu'ils mangeront pour le souper.
Ça n'a aucun bon sens.
Et ce, trois fois par semaine.
Ça, c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai.
Oui, go, malheureusement.
Mais c'est donc bien pathétique.
c'est...
Une personne sur deux ne sait pas à 17h
ce
qu'il va manger pour souper.
Trois fois par semaine. Oui. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ben les parents... Souvent, ce qui était dans l'étude, ce qui était démontré, c'est que les parents prennent les enfants, vont à l'épicerie, ils rendent 5h30, 6h moins quart, achètent des trucs, ou vont au restaurant, ou mangent des repas congés devant la télévision. Donc, déjà ça, cette statistique-là, ça nous démontre que c'est pas bien parti pour être assis tout le monde pour manger en famille. Les enfants ont faim, ils sont tannés, oui. Fait que là, on leur donne des trucs à grignoter. Les parents sont pas préparés. Oui. Fait que c'est sûr qu'on a des horaires vraiment occupés, mais ça prend quand même... Là, je reprends les mots de la dernière chronique, de la préparation et de la planification. C'est vraiment les trucs.
Non, j'ai aucun commentaire.
C'est bouche bée.
J'ai envie de ne pas y croire, c'est tout. Je veux pas croire ça, qu'une personne sur deux sait pas ce qu'il va manger à 5 heures, 3 fois par semaine. Je veux pas croire ça.
C'est alarmant quand même. C'est effectivement...
C'est pathétique. Ouais. Vraiment, réellement pathétique.
Fait que, on part de là, puis on se dit, ce qu'on peut faire, on peut améliorer notre façon de faire. Fait que, première chose, planifier, justement... On en a parlé dans la dernière chronique, planification des menus et des repas. Mmh. Faire l'épicerie en conséquence. Quand on arrive à la maison, peut-être qu'on arrive à 5 heures, mais si on sait qu'est-ce qu'on va manger déjà, on sait que le frigo est plein, ça nous permet de faire le repas plus rapidement. Donc, ça, c'est première chose. Planifier la visite à l'épicerie en préparant une liste pour vous assurer d'avoir tous les aliments dont vous avez besoin. Puis en passant, c'est démontré que les personnes qui retournent à l'épicerie plusieurs fois par semaine vont payer leur facture d'épicerie pas mal plus cher à la fin de la semaine.
Ben oui, sans parler du temps puis de l'essence.
Du temps, exactement. On fait l'épicerie une fois, beaucoup plus d'avantages.
Puis avec une famille, là, je veux pas faire de publicité, là, mais une petite carte Costco, là. Puis tapez-vous une visite, là, une fois par mois, là, pour pas acheter 8 pots de beurre de peanut par
c'est
mois.
Ça vaut la peine. D'autres trucs, la veille, mettre à décongeler la viande ou les aliments que vous aurez besoin le lendemain. On peut préparer, couper les légumes la veille aussi. Si vous cuisinez du riz, par exemple, la veille, cuisinez-en donc le double. Vous pourrez servir, par exemple, pour une recette pour le lendemain. Fait qu'on on se sauve du temps. Monter des cartables de recettes. Bon, ça, j'en ai déjà parlé. Puis pour manger à table, il n'y a pas de truc autre que de s'asseoir à table. Il faut que ça soit une... Puis on en a parlé dans une autre chronique, la routine. Il faut que les repas en famille fassent partie de la routine. Mm-hmm. Puis ça, c'est si on l'intègre pas avec les enfants jeunes, c'est pas quand ils sont ados que c'est le moment de l'intégrer.
Ouais, puis mon père disait, ouais, mais je veux pas manquer les nouvelles. Aujourd'hui, t'as plus le droit de dire ça. Parce que les nouvelles, tu peux les enregistrer. Puis qui n'a pas un enregistreur numérique HD aujourd'hui à la maison? Ça prend 5. Pour vrai?
Oui.
Ouais, voyons donc.
Je t'ai dit.
Écrime. M'a écrit à Denis Lévesque, faut que t'ailles à son émission. T'es tout seul au Québec. Je dis ça, mais je l'ai eu dans le temps des fêtes. C'est facile, là. C'est le petit rond rouge, là. REC, c'est écrit au-dessus. Tu fais REC. Enregistre-le le bulletin de nouvelles, Denis. Ouais. Puis après ça, on va manger.
Les nouvelles repassent tellement souvent, on peut regarder sur Internet. Donc, non, je pense qu'on n'a plus de raison pour ne pas manger en famille, d'interagir tout le monde ensemble, puis que ça soit positif aussi les repas. C'est pas le moment de chicaner puis de régler nos comptes.
Ou chialer.
Chialer.
Tu sais que ma belle-sœur, à force d'entendre mon frère chialer sur sa job, un matin s'est levé puis est allé, entre guillemets, là, pelleter le boss de mon frère. Ça date de quelques années, puis c'est dans une autre région du Québec. Ça me dérange pas de le raconter. Mais c'est vrai que c'est pas le moment parfait pour chialer sur sa job ou chialer sur ses amis ou chialer sur sa belle famille. C'est un repas, t'as raison.
Il faut que ça soit positif, dans le fond.
Créer un équilibre au minimum, parce qu'on a toujours le réflexe de raconter puis de chialer les trucs négatifs, mais faut aussi raconter ou parler de projet, tu sais, parler de, ou jouer. Moi, je joue avec mes enfants aussi. On joue à des devinettes, là. Bon, on joue à quoi te fait penser le mot café. Le Rosie dit chaud. Le chaud égale soleil. Joue, on tourne en rond autour de la table. Jusqu'à ce qu'on termine avec le mot caca, parce qu'ils trouvent ça très drôle. Et là, on chicane pas, mais on dit, Rosie, tu vas perdre un jeton.
Mais c'est ça, puis tu sais, de demander aux enfants qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui à l'école, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, les faire discuter, les faire parler, ça, ça apprend aux enfants la communication. Dans le fond, les repas, c'est vraiment un moment pour apprendre. Ça apprend à à bien se tenir à table aussi. Ça apprend à goûter aux enfants. Donc, mais s'il n'y a pas de miracle, il faut se le mettre comme objectif. Puis on en a parlé dans les résolutions dans l'autre chronique sur les résolutions. Il faut se le mettre comme objectif, s'asseoir à table. Si, puis je vous dis pas. C'est pas facile, là. Il y a rien de facile dans les changements d'habitude. Mm-hmm. C'est sûr qu'au début, on trouve ça plate d'être assis, de se regarder.
Mais puis, je te le dis, le prochain fléau, c'est les téléphones intelligents.
Ouais.
Je pense que ça va faire beaucoup mal aux relations humaines. Désolé, là. Il y a deux Hugo, là, par rapport à ça. Il y en a un qui pense que tout le monde va en avoir un. Ça va être un outil essentiel, extrêmement utile pour l'humain. Mais à la fois, il va manger vos relations humaines. Il va les détruire pour beaucoup de gens, là. D'ailleurs, on a eu une idée, moi puis Daniel. Je sais pas si t'as entendu la chronique en ondes. On aimerait ça, ouvrir un restaurant sans téléphone intelligent. Mmh. C'est-à-dire que les gens entrent au restaurant et déposent leur téléphone avec une identification précise. Ce téléphone-là est à Hugo C, telle table, et on le place dans un immense téléphone intelligent en plastique. Et c'est symbolique, et en même temps, on n'entend pas 56 bruits pendant qu'on mange avec notre famille ou conjointe autour de nous. Mmh. Parce que encore là, je l'ai fait récemment, l'expérience, pour ça j'en ai parlé avec Daniel. Je trouve ça dur et insupportable, les petits bruits de téléphone que j'entends ici et là. Puis je trouve ça dur de voir un homme en face de sa conjointe dans un restaurant en train de faire quelque chose avec son téléphone.
T'as raison. D'ailleurs, moi et mon chum, on a des téléphones intelligents. Puis on s'est donné comme objectif cette année à table. C'est à table. Donc, on ferme nos téléphones ou on y répond pas, ou du moins, on les regarde pas. Puis, c'est drôle que tu parles de ça, du restaurant, parce que j'ai vu cette semaine passer sur Internet, c'était un groupe d'amis qui avait décidé de faire ça. Eux autres, quand ils allaient au restaurant, ils mettaient tout leur cellulaire sur une pile au milieu de la table. Hein. Puis, que même si ça vibrait, ça sonnait, personne ne devait le prendre. La première personne qui touchait son téléphone, il payait la facture.
Ah, c'est bon. C'est très bon.
Fait qu'on s'entend que personne ne veut toucher la pile. Hein?
Ouais.
Donc, ça permet de se détacher. Puis, au même titre, je pense que la technologie, il faut en prendre et en laisser, comme tu dis. C'est pas vrai qu'on a besoin d'avoir tout le temps des téléphones. Puis moi, j'ai un cellulaire, puis les gens me disent souvent, pourquoi tu réponds pas? Ben, ça me tentait pas. J'étais occupée, je faisais d'autres choses. C'est pas parce qu'on a un téléphone cellulaire qu'on doit être rejoignable en tout temps, n'importe où.
Mm-hmm.
Même chose pour les courriels.
Mm-hmm.
Fait que vivez un petit peu plus dans la vie de tous les jours.
Texto, courriel, Facebook.
Internet. Vivez plus la vie. Vivez moins sur les bébelles, entre guillemets. Puis pas que je suis contre, là, je l'utilise, puis c'est très pratique. Mais je pense je reviens avec mon mot préféré. Il faut avoir un équilibre.
Ouais.
Dans tout.
Moi, c'est un de mes mots préférés. Les autres sont objectif et pas santé. Équilibre, objectif et plaisir.
Plaisir.
OK. Alexandra.
Santé.
Santé.